Alors, il y a une question dans ce texte qui m'interpelle. Et cette question est posée par Jésus. C'est au verset 38. Que cherchez-vous ? Alors, est-ce que ça vous arrive de regarder la foule dans l'airway ou dans un centre commercial ou au Cap Temps, je ne sais pas, et de vous poser la question, qu'est-ce que tous ces individus cherchent ? Ou même, qu'est-ce que leur comportement indique comme, pour savoir qu'est-ce qu'ils cherchent ? Les gens s'affairent, oui, c'est clair. Ils courent dans tous les sens. Mais qu'est-ce qu'ils cherchent au juste ? Peut-être, qu'est-ce que vous cherchez ? Alors, le sociologue Max Neff classifie les besoins fondamentaux humains ainsi. Le besoin de la subsistance, de la survie, aussi à la protection physique, l'affection, le besoin de se savoir aimé, d'avoir de la compréhension, de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Le besoin d'être impliqué dans la société, d'avoir un rôle, d'avoir des temps de repos et des temps de divertissement. Le besoin d'exercer sa créativité ou d'avoir une identité, d'avoir des espaces de liberté. Cette liste nous montre combien nos besoins sont divers et variés et profonds. Mais c'est vrai, de jour le jour, on ne sait pas toujours ce qu'on cherche, on s'affaire, on tâtonne. Alors sans doute, je vois qu'on va avoir du mal. Ça ne marche plus, non ? Oui, c'est bien. Sans doute un bon nombre d'entre vous, comme Sylvain, aiment bien la musique du groupe dublinois U2. Alors, il y a bien des années, ils ont chanté une chanson que moi je vais traduire le titre dans la langue de Molière ainsi. Je n'ai toujours pas trouvé ce que je cherche. À l'époque, c'était d'autant plus curieux parce que quelques-uns des membres de ce groupe avait quand même fait une certaine profession de foi chrétienne. Et même cette chanson en parle. Mais elle en parle tout en affirmant qu'il n'avait pas encore trouvé ce qu'il cherchait. Je pense que cette chanson est une chanson classique parce que quelque part, ça fait tilt dans le cœur de beaucoup de gens. Ils n'ont pas encore trouvé ce qu'ils cherchent. Alors, André et l'autre disciple, donc probablement Jean, ne savaient pas comment répondre à la question de Jésus non plus. Alors, ils ont répondu au verset 38 en lui posant une question très terre-à-terre. Où habites-tu ? Je pense qu'ils n'osaient pas dévoiler ce qu'ils avaient sur le cœur. Dans les versets précédents, nous lisons qu'André et l'autre disciple avaient entendu le témoignage de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste leur avait dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et André et cet autre disciple, peut-être Jean, sans doute, ils veulent savoir, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que Jésus est vraiment cet homme dont les Écritures parlent ? Est-ce que c'est lui qui peut leur donner un nouveau départ dans la vie, comme nous avons vu la semaine dernière ? Alors c'est peut-être votre cas aussi ce matin. Vous avez envie de savoir si ce message concernant Jésus est vraiment vrai, s'il est vraiment pertinent. Vous êtes là pour enquêter sur la foi chrétienne, ben vous êtes au bon endroit. Et nous allons voir que Jésus ne méprise pas votre questionnement. Peut-être que vous avez déjà fait une profession de foi chrétienne. Vous êtes un disciple de Jésus. Mais par moments, vous pouvez bien compatir avec la question des chanteurs du groupe U2. Vous avez fait quelque part dans la foi, mais peut-être avec les années qui se succèdent, vous doutez un peu de ce que vous avez trouvé, ce que vous cherchez. Il peut y avoir des moments difficiles dans la vie du chrétien, des épreuves. Mais Jésus a quelque chose à vous dire aussi par ce texte ce matin. Mais peut-être que vous êtes un chrétien qui, en ce moment, vous êtes bien conscient de comment Dieu a comblé votre cœur en Jésus. Ben, ce passage a également une vision claire à vous donner et qui vous donnera envie de partager cette si bonne nouvelle avec tous ceux qui cherchent et qui se cherchent. Alors, on va aborder le texte ce matin en deux temps. Donc, premièrement, venez et voyez, venez voir. Et ensuite, comment peut-on voir aujourd'hui ? Donc, venez et voyez. Jésus répond à la question par une invitation chaleureuse. Jetez un coup d'œil, c'est le verset 39. « Venez, leur dit-il, et voyez. Venez voir. » Alors, c'était une invitation à passer du temps dans sa présence, à faire sa connaissance. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de faire ce matin, ici, dans cet évangile de Jean. On va revenir un peu plus tard, dans la deuxième partie du message, sur ce temps passé dans la présence de Jésus. Mais en attendant, j'aimerais, si je puis dire, focaliser la caméra sur ce que Jésus promet de les faire voir. C'est le verset 51 qui est un peu le verset clé de ce texte. Et c'est là que Jésus révèle ce que ses disciples vont voir. Au verset 50, Jésus a dit à Nathanaël, il a vu un peu dans la vie de Nathanaël, et ensuite il a dit que Nathanaël et les autres vont voir des choses encore plus grandes. Et verset 51, Jésus ajouta, je cite, « en vérité, je vous le dis », donc à chaque fois que Jésus dit ça dans un évangile, ça veut dire que c'est important, « en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus, ou plutôt sur, le Fils de l'homme. » Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que ce que Jésus a dit là, c'est quand même un peu énigmatique. D'autant plus que, on sait dans la suite de l'évangile, il n'y a pas une scène où on voit des anges monter et descendre sur Jésus. Alors qu'est-ce que Jésus veut dire par ce verset? Alors comme d'habitude, les trésors du texte sont souvent dans les détails du texte. Dans ce chapitre, nous avons déjà eu plein de titres pour Jésus. Jésus est le Fils de Dieu, il est l'agneau de Dieu, il est le Messie, le roi d'Israël, la parole faite chair, la lumière. Et ici, nous rencontrons sur les lèvres de Jésus le titre qui se donne, il se donne à lui-même, un titre qu'il affectionne et qui, dans le Nouveau Testament, se réfère toujours et uniquement à Jésus. Jésus sait que les Juifs cherchent un libérateur puisqu'ils ne veulent plus vivre sous l'occupation romaine. Ils cherchent le roi d'Israël que Dieu avait promis d'envoyer, un roi dont le règne serait puissant, libérateur et salvateur. Mais cette attente de la part des Juifs, cette attente messianique, était chargée de menaces politiques pour Jésus. Et c'est pour ça qu'il choisit très sagement ce titre un peu ambigu, le Fils de l'homme. Un homme, quoi. Et c'est vrai que Jésus est pleinement, qui est pleinement Dieu, est aussi pleinement homme. Mais petit à petit, Jésus va donner le sens qu'il veut donner à ce titre. Et Jésus nous montrera que quand il parle du Fils de l'homme, il ne pense pas à un simple homme, mais il pense à un homme royal. Celui dont le prophète Daniel a parlé. Au chapitre 7 du livre de Daniel dans l'Ancien Testament, nous rencontrons le Fils de l'homme, un Fils de l'homme, à qui l'Ancien des Jours, donc Dieu, donne la souveraineté et la gouvernance de l'univers pour régner éternellement sur les hommes. Est-ce que vous voyez à quel point l'autorité de Jésus est grande? Lorsqu'on parle de l'application, on pense souvent à quelque chose qu'il faut faire dans la semaine. Mais une des plus grandes applications concerne notre compréhension de qui est Dieu, de qui est Jésus. Et ici, la Bible nous invite à être éblouis devant l'autorité de Jésus, cet homme de Nazareth. Et sur cet homme royal, éternel, ce roi de l'univers, il y a les anges qui montent et qui descendent. Alors, il faut dire que tout ça reste quand même toujours un peu énigmatique. De quoi est-ce qu'il parle au juste ? Alors Jésus veut nous faire penser à Jacob, un des patriarches de l'Ancien Testament. Est-ce que vous vous souvenez du rêve de Jacob? Dans le rêve de Jacob, Jacob a vu une échelle qui allait jusqu'au ciel. Alors je vous invite à trouver ce passage dans vos Bibles, dans l'Ancien Testament. C'est à la page 21 dans les Bibles blanches, c'est Genèse chapitre 28. Et je vais lire à partir du verset 10. Genèse 28, verset 10. À la page 21. Jacob partit de Beersheba et prit la direction de Charan. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et il se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Jacob se réveilla et se dit, « C'est certain, l'Éternel est dans cet endroit, et moi je ne le savais pas. » Il eut peur et il dit, « Que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. » Est-ce que vous voyez comment Jésus reprend ce texte de la Genèse? Il l'applique à lui-même. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jésus est en train de dire qu'il est lui-même cette échelle, cette porte du ciel, cette échelle qui rend le ciel, qui rend Dieu accessible. C'est comme si on pouvait monter et passer par ce faux plafond, par le toit, et atteindre et toucher Dieu. Parfois, sur le sommet d'une montagne, on a l'impression de toucher le ciel. Mais avec Jésus, on le touche vraiment. Il est plus haut que la plus haute montagne. Au début de l'évangile, il y a cette phrase célèbre, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Que cherchons-nous? On s'affaire. On essaie de combler tant bien que mal nos besoins fondamentaux. Mais je vous suggère que le besoin le plus fondamental est celui de connaître et d'être en paix avec notre Créateur. C'est sans doute pour ça que chaque civilisation humaine a tenté de toucher le ciel, de percer les secrets de l'univers et de notre existence. Chaque religion a tenté de faire ça avec des codes moraux différents et parfois contradictoires. Notre société moderne n'est pas une exception non plus. Je ne sais pas si vous avez lu ou vu à la FNAC ce livre qui est sorti il y a quelques semaines qui s'appelle « Le visage de Dieu ». C'est écrit par deux scientifiques très connus à la télé, Igor et Gretchka Bogdanov. J'arrive pas à dire le nom. C'est vrai qu'à la télé, ils ne sont pas toujours pris très au sérieux. Mais ce bouquin, c'est un bouquin très sérieux qui reprend le travail qui a été fait sur les origines de l'univers par un satellite lancé il y a quelques années qui traque, donc je cite, qui traque le bruit de fond cosmologique, c'est-à-dire le rayonnement fossile de la toute première lumière de l'univers. Voici une image reconstitué de l'univers. Enfin, ça, apparemment, ça c'est l'univers tout entier, mais c'est reconstitué. C'est beau, n'est-ce pas? Et là, c'est une image où on voit comment les scientifiques voient l'univers qui est en train de devenir encore plus grand avec le début. La recherche scientifique reconnaît à quel point l'univers n'est pas chaotique, mais réglé par des lois finement ajustées pour la vie et pour l'homme. Des lois réglées finement au début de l'univers, dans la première seconde de l'univers. À l'Institut de recherche nucléaire en Suisse, le CERN, il tente de comprendre ce moment, cette première seconde quand l'univers fut déclenché. Voilà, ils mettent en marche de gigantesques expériences. L'homme est curieux. Pourquoi sommes-nous là? Qui a bien nous créé? L'homme cherche le visage de Dieu. Jésus annonce qu'il est le visage de Dieu. Il est l'échelle qui rend Dieu accessible. Il est le vrai lien. C'est lui qui rend Dieu connaissable. Alors à la suite de son rêve, Jacob appelle l'endroit du rêve la maison de Dieu. C'est-à-dire l'endroit où Dieu rencontre son peuple, où Dieu est avec son peuple. Et Jésus, en reprenant son rêve à son compte, nous dit que c'est en lui que nous pouvons rencontrer Dieu. C'est en lui, Jésus, que Dieu est présent au sein de sa création. Dans le rêve de Jacob, Dieu, en haut de l'échelle, a promis de déverser des bénédictions sur Jacob. On peut voir ces promesses comme une promesse de restaurer, de refaire la création. Il lui a promis un pays, il lui a promis un peuple nombreux qui allait bénir toutes les familles de la terre. Il lui a promis aussi sa présence, donc un pays, un peuple et aussi sa présence. Et Jésus est en train de nous dire que ses promesses vont s'accomplir pleinement en lui. C'est lui qui va nous donner un nouveau pays, une nouvelle création, le ciel. C'est lui qui rassemble un peuple nombreux, nous en faisons partie. C'est en lui que toutes les familles de la terre sont bénies. Le pardon, la réconciliation avec Dieu touche toutes les nations de la terre. Et en Jésus, Dieu est présent à nos côtés, avec son peuple, par son esprit. Jacob a dit que cet endroit est redoutable. Nous pouvons dire que Jésus est redoutable. Et l'évangéliste Jean veut que nous en soyons émerveillés. Émerveillés peut-être pour la première fois ce matin, mais émerveillés aussi peut-être pour la énième fois ce matin. Qu'est-ce que André et l'autre disciple cherchaient? Qu'est-ce que nous cherchons? Jésus nous dit, venez voir. Non pas l'endroit où il habite, mais lui, sa personne. Car ce que nos cœurs désirent se trouve en lui. C'est lui la porte du ciel. C'est en lui, par lui, que nous pouvons connaître Dieu et tout ce que Dieu donne, l'amour, la paix, le pardon, l'espérance, la signification. Alors comment peut-on voir ces choses aujourd'hui? C'est le deuxième partie. On a sauté quasiment toute la première partie du passage, donc c'est le moment de revenir là-dessus. Nous avons entre nos mains ce matin la promesse d'un ciel ouvert, d'une échelle entre Dieu et l'homme. Mais peut-on voir ces choses aujourd'hui? Alors nous essayerons d'y voir un peu plus clair. Pourquoi est-ce que Jean nous raconte cette histoire d'André, de l'autre disciple, de Pierre, de Philippe et de Nathanaël? Dans cette section, il parle de Jésus, mais ce sont des titres que nous avons plus ou moins déjà rencontrés dans cet évangile. Le Messie, le prophète, dans Moïse parlait, les prophètes parlaient, le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Pourquoi est-ce que Jean prend le temps, le papier et l'encre pour nous raconter ces événements? Parce que c'est le début de leur histoire, de leur vécu en tant qu'apôtre, en tant que disciple. Et c'est Jésus lui-même qui veut nous montrer quelque chose par le biais de leur histoire. Nous assistons ici, dans ces versets, au passage de bâton. Jean-Baptiste témoigne en faveur de Jésus, « Voici l'agneau de Dieu ». Et André et son ami se mettent à le suivre. Ils sont curieux. Ils veulent en savoir plus. Ils vont finir par être ses témoins. C'est le début d'une très grande aventure et on voit que leur enthousiasme est palpable. André fait ce qui est tout à fait normal. Il fait passer le message à son frère, Simon. Il se rend en Galilée avec Jésus et il trouve Philippe. Et Philippe, à son tour, rencontre Nathanaël et lui parle de Jésus. Le message concernant la personne de Jésus passe d'ami en ami. Ça continue aujourd'hui comme ça. Un ami rencontre Jésus et il veut que ses amis le rencontrent aussi. Quoi de plus normal, une bonne nouvelle se partage et se propage. Mais je ne pense pas que Jean, l'évangéliste Jean, veuille nous donner un cours sur comment faire de l'évangélisation ce matin. Je ne pense pas que ce soit son propos. Il veut plutôt nous présenter les témoins dont nous avons besoin pour que nous puissions venir à Jésus et voir Jésus nous-mêmes. Si nous allons voir, nous avons besoin de ces témoins oculaires. Jésus n'est plus visible, on ne peut pas aller quelque part pour voir Jésus. Mais tout comme on voit, on regarde un documentaire sur la Deuxième Guerre mondiale à la télé, on peut voir la vie et le ministère de Jésus par les documentaires, par les quatre évangiles, par ces témoignages des témoins oculaires. Et dans un sens, dans ce passage, c'est Jésus qui nous présente ses témoins. En tout cas, deux d'entre eux, Pierre et Nathanaël. Au verset 42, Pierre est conduit vers Jésus. Jésus le regarde et lui dit, verset 42, « Tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Jésus connaît cet homme. Il a un projet pour cet homme. Cet homme sera son témoin fiable, sa pierre. Et on sait qu'il est fiable parce que c'est Jésus lui-même qui dit qu'il est fiable. Alors c'est un peu circulaire comme argument. Donc on va savoir si on peut croire les paroles de Jésus. On sait qu'on peut croire les paroles de Jésus parce que le témoignage de Pierre est fiable. On sait que le témoignage de Pierre est fiable parce que Jésus dit qu'il est fiable. Mais c'est normal parce que Pierre ne peut pas authentifier Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut authentifier Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand et qui a plus d'autorité que Dieu. Donc c'est normal que l'argument est circulaire. Si ce n'était pas circulaire, ça serait plutôt problématique. Alors c'est encore plus clair avec Nathanaël. Verset 47. Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui, « Voici un Israélite en qui il n'y avait pas de ruse. Il n'y a pas de ruse. Tu me connais-tu ? » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu as tissé le figuier, je t'ai vu. » Alors ces hommes ont vu Jésus, mais plus que cela, Jésus les a vus. Jésus nous dit que cet homme Nathanaël, certains pensent qu'il s'agit de l'apôtre Barthélemy, Jésus nous dit qu'il est un homme sans ruse, c'est un homme honnête, sans arrière-pensée, un homme fiable. Alors c'est très clairement un homme qui se pose des questions. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ? C'est un homme qui ne croit pas aveuglement, il raisonne, il réfléchit, il enquête un peu sur la foi qui est Jésus, mais son questionnement ne l'arrête pas. Il vient, accompagné de son ami Philippe, pour voir Jésus. Il se met en marche. Et Jésus sent son cœur. Et c'est Jésus qui nous dit que si nous, ici au XXIe siècle, si nous on veut voir Jésus, nous le pouvons. Parce que ces témoins, à l'instar de Nathanaël, sont des témoins fiables. À la fin de cet évangile, juste à la fin, Jean nous dit, c'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Alors comment pouvons-nous réagir à ce message ? En quoi est-ce qu'il nous concerne au juste ? Alors si vous êtes là parce que vous vous posez des questions par rapport à la foi chrétienne, Nathanaël et ses amis vous invitent à écouter, à lire ce qu'ils ont écrit et à voir avec eux, à travers eux, que quelque chose en effet de bon est sorti de Nazareth. Jésus n'était pas simplement un homme qui a vécu il y a 2000 ans. Ses témoins étaient convaincus, même face à la menace de la mort, que Jésus était, que Jésus est la porte du ciel, l'échelle vers Dieu, la maison où nous rencontrons Dieu, ce Dieu qui nous aime, celui que notre cœur recherche. Alors pourquoi ne pas lire la suite de cet évangile dans la semaine ? Peut-être demander à un ami de le lire avec vous, peut-être quelques chapitres par semaine. Vous pourriez également demander à Dieu dans la prière de vous aider à voir comment Jésus est Dieu et comment vous pouvez mettre votre confiance en lui. Notre passage commence avec le titre « Agneau de Dieu ». Nous en avons parlé la semaine dernière. Le témoignage fiable de ces hommes va nous conduire au pied de la croix. Et c'est là, au pied de la croix, que nous pouvons voir avec nos yeux à quel point nous sommes vraiment des pécheurs. Dieu a dû donner son Fils pour nous. Et nous voyons à quel point Dieu est un Dieu d'amour, de fidélité, de bonté et de miséricorde. C'est au pied de la croix, dans l'humilité, dans la repentance, que tous les bienfaits que Jésus donne sont reçus. Alors si ça fait un moment que votre foi semble chanceler, que le doute s'installe un peu comme peut-être dans la chanson de U2, ou peut-être simplement la fatigue de la vie a quelque peu dépoli votre foi, la réponse est toujours plus de Jésus. Nos cœurs sont parfois un peu aveugles, ils s'affairent, ils cherchent ailleurs. Et Jean veut que nous soyons persuadés dans nos cœurs ce matin, parce qu'il a écrit que Jésus est vraiment le lieu où nous rencontrons Dieu. Et qu'il est cette échelle par qui Dieu bénit et comble nos cœurs. Ces témoignages ne sont pas des témoignages d'hommes fous ou pleins de ruses, mais ce sont des témoignages sur lesquels nous pouvons bâtir nos vies. C'est Jésus qui nous le dit. Lorsque nous voyons clairement la vérité de qui Jésus est, quand nous méditons là-dessus, ben ça augmente et fortifie notre foi. Et lorsque nous nous tournons vers lui, humblement, avec foi, ben c'est à ce moment-là que nous voyons encore plus clairement qui il est vraiment. La semaine dernière, je nous ai invités à passer un moment chaque jour à remercier Dieu pour Jésus, pour cet agneau de Dieu, le sacrifice qui nous réconcilie au Père. Ben, cette semaine, on peut remercier Dieu pour cet accès libre, cette échelle vers Dieu que nous avons. Nous avons avec Jésus. Nous pouvons avoir un accès devant Dieu, devant son trône de grâce, parce que Jésus nous a ouvert la voie. Il est notre échelle. Demandons à Dieu de nous montrer combien Jésus est grand, combien Jésus est splendide. Jean veut que nous émerveillions et que nous disions à tous que cet homme est redoutable. André, Jean, Pierre, Philippe et Nathanaël ont fait une découverte extraordinaire. Et c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas faire autrement que de témoigner. Prions également que Dieu nous donne des occasions de témoigner cette semaine, de diriger nos amis, nos familles, nos collègues vers Jésus, vers cette échelle, vers celui qui peut nous faire découvrir le Dieu qui nous aime. Je vous invite à la prière. Prions.